jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
Bonsoir Aurélien.
Bonsoir Caroline.
Et bienvenue sur l'antenne d'RTL.
Merci.
Je vous écoute.
Alors moi je vous appelle parce que je fais face à un dilemme ces derniers temps.
Oui.
J'ai appris que ma maman était en très mauvaise santé. Et je l'ai appris pas par elle en fait, par un intermédiaire. Donc j'ai souhaité prendre contact ou reprendre contact avec elle, on va dire, parce que à l'initial j'avais décidé de couper les ponts avec elle il y a 3 ans.
Ah oui, d'accord.
Donc là j'ai décidé de faire la démarche inverse en apprenant cette nouvelle, puisque malgré nos différends et toute la complexité de notre relation, ça reste quand même ma maman. Donc,
ça vous a affecté d'apprendre oui. qu'elle était en mauvaise santé.
Oui.
Mais voyez, ça rejoint. Je ne sais pas si Françoise, qui vient de raccrocher et qui ne voit plus sa fille, enfin, depuis 5 ans, sa fille et son gendre, et qui a peur, l'âge avançant, de peut-être justement ne plus les voir. Enfin, ça montre que rien n'est jamais joué, puisqu'au fond, vous vous dites, il y a 3 ans, vous aviez décidé de couper les ponts. Alors, je ne sais pas si vous voudrez m'en parler, pour quelles raisons, mais aujourd'hui, la sachant en mauvaise santé, vous aimeriez faire un pas vers elle.
Oui, exactement. Et c'est vrai que c'est une décision très difficile, en fait, de refaire un pas vers elle, parce que c'était déjà à la base une décision très difficile de couper les ponts.
Oui, j'imagine.
Couper les ponts. C'est pas
prendre
vraiment
de la distance.
Ponts, voilà, prendre de la distance, ouais. J'avais effectivement décidé de prendre de la distance parce que ma maman est quelqu'un, je sais pas si c'est le bon terme, mais je définis ça de quelqu'un d'assez toxique en fait, qui se fait du mal à elle-même et aux gens autour d'elle,
oui.
Au final. Et ayant eu des enfants depuis 4 ans, j'ai pris la décision de les écarter de ça parce que moi-même j'avais déjà beaucoup souffert de tout ça quoi.
C'est important et je vous remercie ce que vous dites parce que ça peut parler. On a souvent ce type de témoignage malheureusement de familles comme ça, un moment un peu désunis où il y a des liens qui se distendent, où des parents m'appellent parce que ils souffrent de cette distance. Et je trouve que vous dites bien les choses, c'est-à-dire que du point de vue de l'enfant, adulte hein, aujourd'hui que vous êtes, c'est aussi douloureux. C'est toujours douloureux, cette décision. Mais que vous ne l'avez pas fait à n'importe quel moment. C'est un moment où vous étiez en train de constituer aussi votre famille. Et finalement, il peut y avoir un désir légitime de préserver vos enfants, au fond, d'une ambiance familiale, de conflits, parce qu'on en parlait précédemment avec Françoise, les petits-enfants héritent aussi d'un héritage familial parfois qui est bien lourd.
C'est vrai, et je veux les épargner de ça.
Oui, ils ont quel âge, vos enfants? Enfin, ils sont petits encore, j'imagine.
Oui, 1 an et demi et 4 ans et demi.
Oui, ils sont tout petits, d'accord.
Mais bon, il était temps de le faire dès le début, mais c'est vrai que la décision, elle a été très difficile, mais...
Oui.
Elle s'est faite, comment dirais-je, la clé en fait. Ça s'est joué au moment où l'enfant que je suis s'est mis en face du papa que je suis.
Et oui.
Et c'est un peu le papa qui a tranché finalement.
Oui. C'est bien. C'est en même temps, même si ça vous a coûté beaucoup, c'est aussi le père là qui a réagi. C'est-à-dire que même si vous avez été un enfant en souffrance. Vous vous êtes comporté aussi en père responsable.
Oui. Oui, c'est important de... Enfin, ça m'a beaucoup aidé en tout cas de me dire je ne suis pas que moi-même, je suis papa, je suis frère, je suis enfant.
Oui. Bien sûr.
Parfois, ça aide à se regarder à travers un autre prisme. Ça, ça aide beaucoup à prendre des décisions. Oui.
Je comprends. Et votre mère, comment? Parce que c'est d'autant plus compliqué que parfois, évidemment, le parent vit cela comme une injustice. Se manifeste. Comment avez-vous fait par rapport à votre mère? Vous lui avez expliqué pourquoi, au fond, vous souhaitiez prendre un peu de distance ou...
Alors, c'est une très bonne question. Est-ce que je lui ai expliqué? J'avoue, je ne m'en souviens pas.
Ah oui.
Je ne m'en souviens pas, mais en tout cas...
Pourquoi il y a 3 ans, finalement? Enfin, oui, vous me dites, vous avez des enfants d'un an et demi et 4 ans et demi, donc c'est au moment où vous êtes devenu papa.
Alors, oui, je pense que ça m'a beaucoup aidé à prendre la décision, oui. Mais c'est surtout au décès de mon papa à moi que ça s'est joué, en fait.
Que vous avez perdu il y a 3 ans, donc.
Oui, c'est ça.
Ah oui, d'accord.
Mais
oui.
Mes parents étaient divorcés depuis très longtemps. Mm-hmm. Et en fait, au décès de mon papa... Alors, faut le voir pour le croire, mais il y a beaucoup de choses qui ont ressurgi.
Oh non, énormément de choses. Oui, je comprends. Oui, bien sûr. C'est inévitable. Ouais,
on a tendance à enfouir.
Oui. Ben oui.
Sauf qu'à un moment donné, tout ressort d'un coup. On ne s'était pas prévu, mais bon, c'est un peu ce qui s'est passé.
Oui, c'est outre le chagrin que vous avez éprouvé, mais il y a beaucoup de choses, de souvenirs de votre enfance qui ont réémergé.
Exactement. Et puis, le divorce de mes parents s'étant très mal passé quand j'avais 15 ans, ça a fait aussi ressurgir plein de choses.
Oui.
Et c'est vrai que ma maman, quand j'habite plus du tout là où j'habitais avant, donc quand mon papa est décédé, malheureusement, j'ai dû aller chez ma maman le temps des obsèques, etc. Mmh, mmh. Et elle a été très, très, très maladroite, très, même presque désagréable, donc même totalement désagréable, fait.
Quand elle évoquait votre père, donc son ex-mari ?
Oui, voilà, c'est ça.
Ah,
c'est
oui.
ça. Donc moi, j'ai eu la chance, dans mon malheur, j'ai eu la chance d'accompagner mon papa sur la fin. Je dis la chance parce que c'est important pour le
mais
deuil.
Mais si,
bien sûr.
Je comprends ce que vous voulez dire. C'est même si c'est des moments difficiles, mais en même temps, c'est d'une telle intensité ces moments-là. Puis ça peut permettre de se dire des choses, ou parfois pas toujours avec les mots, mais à travers les gestes, des regards. C'est important.
C'est vrai, ça fait très mal par contre. C'est vrai qu'on. On prend une année ou deux pour digérer tout ça. Malheureusement,
c'est
un deuil, ça.
C'est bouleversant.
Mais je pense que si on n'est pas là à ce moment-là, si on n'a pas le courage d'accompagner la personne ou si on n'a pas la possibilité de le faire, malheureusement, je pense que ça peut durer plus longtemps, quoi. Ça peut être
difficile. Vrai. C'est vrai parce qu'il y a quelque chose de finalement, on peut être assailli de regrets à ce moment-là, de dire beaucoup de choses qu'on aurait aimé se dire, qu'on n'a pas pu se dire. Et c'est ce qui est terrible dans les décès qui surviennent très brutalement pour l'entourage. Vous voyez, où justement, la mort arrive par effraction et laisse les proches totalement désemparés. Mais quand vos parents donc se sont séparés, vous aviez 15 ans et à ce moment-là, vous avez continué à vivre avec votre mère ou avec votre père ?
Oui, avec ma maman.
D'accord.
En fait, ce qui s'est passé dans ma jeunesse, c'est que mon papa avait des tendances à trop boire, on va dire.
Oui.
C'était un peu son seul défaut quasiment, on va dire. Mais il y avait pas grand chose. Enfin, il n'y avait rien de négatif autour de ça. Hein.
Vous l'aimiez beaucoup. Vous étiez proche Il était tendre avec vous.
Une gentillesse. Alors, pas très démonstratif, hein, ça c'est sûr. Mais par contre, d'une gentillesse assez, assez incroyable.
Oui.
Et c'est vrai que le quotidien avec quelqu'un qui est alcoolique, finalement, c'est pas forcément facile à...
Non.
Ouais, c'est pas facile à vivre. Non. Et puis, il fumait beaucoup aussi, donc le quotidien n'était pas facile.
Oui, même pour votre mère, à sa décharge.
Bien sûr.
C'est pas facile d'avoir
Bien
un
sûr.
Conjoint alcoolique.
Oui, c'est ça. Et puis, elle lui reprochait beaucoup de ne pas s'occuper de la maison.
Oui.
Bon, ils avaient leurs histoires à ce moment-là, et à ce moment-là, j'ai envie de dire, on était presque nous, mon frère, ma sœur et moi, on était préservés de ça.
Tant mieux. Mais pour l'adolescent que vous étiez, c'est compliqué d'avoir un père que l'on sent fragile, en fait, au fond.
Oui. Et donc, en fait, un jour, ma maman a eu la superbe idée de nous réunir, mon frère, ma sœur et moi, et de dire... ma sœur avait 18 ans, je crois, à l'époque. Mmh. Mon frère était même encore plus grand, bien sûr.
Oui.
Moi, j'avais 15 ans et elle m'a dit, tu as le choix de provoquer le divorce Et si tu décides, en gros, que nous divorcions et que tout ça s'arrête, le négatif du quotidien s'arrête, puisqu'on demandera à papa de partir, eh bien, on le fera tout de suite.
Mais c'est terrible. Et enfin, c'était pas à vous de prendre cette décision. Aucun enfant n'a à prendre cette décision.
Mais si vous voulez, ça, je l'ai réalisé il n'y a pas très très longtemps, moi.
Et pourquoi vous, d'ailleurs? Parce qu'elle s'adressait à vous en particulier?
Parce que j'avais 15 ans et je ne saurais plus.
Ben oui, mais enfin, déjà, c'est fou. Enfin, de s'adresser à ses enfants comme si finalement elle déléguait une décision qu'elle n'arrivait pas à prendre elle, mais ce faisant elle vous mettait un poids sur les épaules que vous n'aviez absolument pas apporté.
Non, c'est vrai.
Qu'elle veuille se séparer, elle avait ses raisons, mais elle n'avait certainement pas lieu de vous les faire porter. Vous avez dû vous sentir écrasée par tout ça.
Mais... Alors après coup, ce qui est fou, c'est que sur l'instant, j'ai été tellement finalement manipulé. Maman s'est servie de la lourdeur du quotidien.
Oui, c'est ça.
Pour vous dire, j'étais même soulagé.
Oui, oui. Et oui, je comprends.
C'est d'ailleurs un des regrets que j'ai. Hein, c'est parce qu'une fois que j'ai dit, bien sûr, maman, je veux que ça s'arrête, ce quotidien.
On peut comprendre. On peut vous comprendre.
Elle m'a demandé d'aller le réveiller parce qu'il faisait la sieste. Et de mes 15 ans, lui annoncer. Et lui dire, papa, il faut que tu partes.
Non, mais c'est terrible.
Et j'allais dire bête comme je suis, mais à 15 ans, on n'est pas forcément...
Non, comme vous dites, il y a une forme de manipulation, mais qu'à ce moment-là, vous ne pouviez pas percevoir. Mais il y a de la manipulation affective.
Oui, tout à fait. Puis ma maman, moi, je faisais une confiance aveugle. Et puis c'était.
Oui, c'est ça. Et puis vous la sentiez aussi certainement pas très heureuse et le quotidien était difficile. Évidemment, vous êtes dit, vous le dites en plus, oui, vous aviez envie que ce quotidien-là s'arrête. Ça ne veut pas dire que vous aviez envie de mettre votre père dehors. Mais...
Et sans mesurer les conséquences. Parce qu'après, il y a forcément séparation des biens, vente de la maison.
Mais il a compris votre père, vous savez. Il a compris qu'au fond, c'était pas vous. Mais oui, même si c'est vous qui avez été envoyé en tant que messager, il sait bien. Vous n'en avez pas reparlé.
Non, jamais. Ouais.
C'est votre regret. Ouais. Mais il a compris, votre père. Votre père, à ce moment-là, il savait bien que ça n'allait plus avec votre mère et qu'il n'était pas bien et qu'il allait mal et que vous n'étiez pas responsable de tout ça. Et certainement, il ne vous en a jamais voulu. Parce que, au fond, s'il devait en vouloir, c'est à lui-même d'être mal, peut-être. Mais certainement pas à vous.
Sûrement, oui. Je pense, j'essaie de penser ça aussi. Tout cas, il n'a jamais eu de propos, il n'a pas de rancune ou quoi que ce soit par la suite.
Mais bien sûr, il a bien compris qu'en fait, vous étiez le messager de votre mère. Et puis, il y avait une relation qui était proche entre vous deux. Il savait que vous l'aimiez, aimez. Oui.
Donc du haut de mes 15 ans, j'ai annoncé ça à mon père. Mon frère et ma sœur ont fait sa valise.
Non, mais c'est vraiment
que tous les enfants puissent participer.
Alors que votre mère, je veux dire quand même, que votre mère se sente totalement démunie, pas à la hauteur, enfin, finalement peut-être partagée entre le ras-le-bol de cette situation au quotidien, de l'état du mal-être de votre père, et la culpabilité de voir, parce qu'au fond, il n'était pas méchant, c'est qu'il était en souffrance, mais qu'elle se déleste de ça sur ses enfants, c'est quand même insupportable. Elle aurait pu trouver de l'aide ailleurs, quoi, et pas vous faire porter cela, parce qu'on l'entend bien, c'est très culpabilisant. Même des années après, c'est comme si vous aviez le sentiment, vous voyez, quand vous dites on n'en a jamais reparlé, qu'au fond, c'est vous qui êtes responsable. De la séparation et du départ de votre père, alors que bien sûr que non.
Mais non, oui, c'est...
D'abord, votre père aurait pu lui-même dire mais il n'était pas en état de le faire, mais il aurait pu dire qu'est-ce que c'est que cette histoire, je vais aller voir ta mère et on va s'expliquer, et vous, les enfants, vous restez en dehors de ça, vous voyez.
Oui, mais lui, il a tout de suite accepté, il est tout de suite parti.
Parce que il devait s'en vouloir et il savait que il avait un problème et voyez.
Bon, puis il était tellement gentil. Ma mère a un caractère très très fort. Hein.
Caractère très fort, mais en même temps, elle demande aux enfants de faire le boulot, curieux. Quoi. Enfin, de ce qu'elle n'a pas, voyez.
C'est curieux, oui. C'est vrai que...
Mais c'est lourd, c'est bien lourd,
c'est très
en
lourd.
Tout cas.
Oui, oui, c'est très
oui,
lourd.
Oui, donc et... tout est remonté au décès de votre papa, là, il y a 3 ans, enfin, tout
oui,
ça.
Oui, c'est ça, et puis on a remis la main sur des papiers du divorce, dans ses affaires personnelles, où en fait, on a découvert que ma mère nous a toujours dit que mon père avait lancé, du coup, la procédure de divorce pour faute contre elle, et qu'à cause de ça, il fallait vendre... la maison, racheter plus petit, vivre dans plus petit, etc., etc.
Oui.
Et j'ai appris il y a 3 ans, quoi, du haut de mes 30 ans maintenant, donc que en fait, sur les papiers de divorce que j'avais trouvés, c'était en fait ma mère qui l'attaquait pour faute.
Ah oui.
Et le plus sidérant pour moi, c'était de découvrir qu'il y avait des témoignages à charge d'amis et de familles proches. Et tous les témoignages qui pointaient du doigt mon père, c'était pour des problèmes d'alcool.
Oui, oui.
Et je cite, il ne s'occupe pas du jardin. C'est quand même quelque chose de
incroyable. Ces témoignages, je crois qu'on a, ça ne se fait plus aujourd'hui. Je crois qu'on...
J'espère.
Oui, moi aussi. Parce que vraiment...
Parce que je ne m'occupe
là,
pas beaucoup de mon jardin, personnellement, et j'espère que ça ne va pas me tomber dessus. Parce que...
Non, mais c'est vrai, les témoignages de parfois des voisins et tout, c'est vraiment... c'est, oui, oui, oui. Là, on tombe vraiment dans les rumeurs, les ragots, les... Bon, c'est terrible. Donc, vous nous avez appelé, pour ceux qui nous rejoindraient, là, à cette heure-ci, à 23h05. Il y a 3 ans, vous avez... vous avez perdu votre père. Beaucoup de souvenirs de votre enfance sont revenus à la surface, souvenirs que vous pensiez enfouis. Ça a été, comme souvent d'ailleurs, un peu un tsunami intérieur. Et là, vous avez mesuré un peu le comportement de votre mère qui a été, finalement, vous a fait endosser des responsabilités qui n'étaient pas les vôtres. Et vous avez décidé de prendre un peu de distance au moment où vous construisiez votre famille, puisque vous avez 33 ans hein, aujourd'hui,
oui,
c'est ça,
c'est ça.
Et vous avez donc 2 enfants, petits, d'1 an et demi et de 4 ans et demi, et prendre de la distance avec votre mère, c'était aussi un peu les mettre à l'écart, les protéger de tout cela. Seulement, il y a quelque temps, vous avez appris que votre mère avait de graves problèmes de santé. Et aujourd'hui, vous vous trouvez pris dans un dilemme. Voilà, c'était pour resituer un petit peu pour les auditeurs qui nous rejoindraient à l'instant hein, sur RTL. Donc, on parlait un peu finalement de la séparation, des conditions dans lesquelles elle s'était déroulée, du divorce de vos parents, et finalement du poids que vous avez fait porter votre mère, d'aller au fond de décider, comme si la décision venait de vous, que c'était vous qui aviez entre vos mains le pouvoir de les réunir ou de les séparer. Et je vous disais que votre père, au fond, n'a jamais été dupe de cela. Malheureusement, il n'était pas en état, plus en état, de pouvoir, au fond, parler à votre mère. Il n'était plus en état de s'occuper de lui, puisqu'il avait des problèmes d'alcool. Et il est parti, au fond. Voilà, il s'est soumis à cette décision. Et je voudrais ajouter aussi, si vous me le permettez, qu'à la décharge de votre mère, alors encore une fois, elle n'avait pas à vous faire porter cela, mais vous l'avez dit vous-même, vivre auprès d'un conjoint qui s'alcoolise est très difficile aussi. C'est difficile de voir l'autre se détruire et au fond de se sentir impuissant.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Pour les enfants aussi, c'est très difficile de voir son papa sombrer dans l'alcoolisme, mais avec le recul, je me dis... Je sais pas, j'ai tendance à me dire que dans un couple, on est censé quand même s'entraider, s'aider. Et j'ai l'impression que ce divorce pour faute, ces attaques, le divorce, ça a duré quand même plus d'un an. Hein. Notre maison, on a dû la vendre au rabais, presque la brader, parce qu'elle partait pas. Donc après, il y a tout un...
Vous avez été pris dans cet environnement, dans ce...
La famille de l'un qui attaque la famille de l'autre,
c'est
etc.
terrible pour vous, les enfants. Oui,
ouais, c'est terrible. Et puis, absolument sans surprise, quelques mois après le déménagement et l'emménagement dans la nouvelle maison, j'ai eu des grosses douleurs au ventre pendant 8 mois, 10 mois, peut-être un an, je ne sais plus. Et donc sans rien dire en fait. Hein. Et en fait, c'est vraiment au bout d'un an qu'on s'est rendu compte, quand je me suis évanoui, que j'avais un vrai problème de santé et donc j'avais déclenché une maladie chronique certainement due au choc émotionnel en fait.
Ah oui.
Et à tout ce qui était enfoui probablement, ça joue beaucoup. Et donc j'ai dû être rapidement emmené à l'hôpital pendant les vacances pour être transfusé. J'avais perdu la moitié de la quantité de mon sang. J'avais maladie que beaucoup de gens connaissent et malheureusement de plus en plus de gens ont, qui s'appelle la maladie de Crohn.
Ah oui, oui.
Et qui a...
C'est très douloureux ça. Qu'est-ce que vous avez... Et vous souffriez en silence alors?
Oui, c'est ça.
Finalement,
c'est pas grave. Il y a pire. Oui. Donc.
C'est-à-dire qu'en plus certainement que comme ça a été dans l'année qui a suivi. Qu'il y avait une bataille juridique qui se livrait entre vos parents. Au fond, vous étiez un peu livré à vous-même aussi.
Oui.
Parce qu'il faut dire qu'un divorce n'est pas toujours pour les enfants un traumatisme. C'est plus tout l'environnement qui est autour du divorce qui est traumatisant. Parfois, pour des enfants, le fait que les parents se séparent alors qu'ils ne s'entendent plus, qu'ils ne s'aiment plus, parfois ils se disputent, et qu'ils peuvent se reconstruire l'un et l'autre, pour des enfants, ça peut montrer ils vont parfois mieux que les parents se séparent plutôt que de grandir au sein d'un couple désuni, voire même qu'on arrive à se haïr. Mais le problème que vous décrivez très bien, c'est l'environnement autour qui peut être complètement délétère. Quand la guerre continue après la séparation et que finalement on a de cesse de dénigrer l'autre conjoint devant les enfants. Et vous, le ventre, oui, maladie de Crohn... alors, il y a plusieurs facteurs hein, dans cette maladie, mais je comprends ce que vous voulez dire par aussi le fait choc émotionnel. Ça s'est déclenché, ça s'est déclaré tout au moins à ce moment-là.
Oui, exactement. Et comme vous l'avez dit, en fait, la guerre du côté de ma maman, elle s'est jamais arrêtée en fait. Elle a toujours, elle a jamais fait le deuil du divorce, mais jamais. Elle en a toujours voulu à mon père.
Oui.
Quand on allait manger avec lui, elle tout demandait toujours qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il veut.
Elle s'intéressait toujours à lui, au fond. Elle avait du mal à rompre le lien.
Je pense qu'elle avait du mal à entendre que lui le vivait bien, finalement. C'est ça qui est assez fou.
Oui.
Il ne l'a pas demandé, mais il le vivait finalement bien.
Peut-être qu'au fond, lui, ça lui a fait du bien aussi de sortir de ce lien de couple. Et est-ce qu'il a pu se sortir de son problème d'alcool? Peut-être se soigner après?
Eh bien, pas tout de suite. Ça a duré encore de nombreuses années. Et en fait, un jour, il a eu des soucis de santé assez forts. Et c'est ma sœur et moi qui avons essayé de le réveiller un petit peu en lui disant « Non, c'est pas possible, il faut que tu ailles voir un docteur » puisqu'il n'avait jamais vu de docteur. Ça devait faire 40 ans qu'il n'avait pas vu de docteur. Donc, on l'a motivé pour aller faire des analyses et c'est à partir de là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait déjà cancer, stade très avancé, etc.
C'est terrible. Donc
là, on reprend un autre sac à dos encore.
Ouais. Mais c'est lourd. Mais c'est pourquoi il allait si mal, votre père? Pourquoi il avait un comportement autodestructeur? Et on voit bien, au fond, on dit parfois l'alcool, c'est comme un suicide lent. Il y a quelque chose, en tout cas, de pulsion très autodestructrice. Et là, vous voyez, au fond, c'est vous, les enfants, qui dites « Papa, tu peux pas rester comme ça, il faut que tu vois un médecin. » Lui, il devait sentir des choses, mais comme s'il laissait aller, au fond.
Oui, je pense que c'est un laisser-aller. J'ai questionné un petit peu la famille, mais il n'y a pas eu... En fait, la réponse que j'ai obtenue, parce que j'enquête, on va dire, entre guillemets.
Oui, je comprends.
J'ai ce besoin de savoir.
Je comprends, oui.
Et du coup, la seule réponse que j'ai eue, c'est que très tôt, il est tombé dedans, dans les bars, etc. Mais
pas une réponse.
De,
voilà, satisfaisante en tout cas.
Oui. C'est ça. Ouais, parce que pas le scoop, mais
oui, oui, non, non, mais c'est un peu. Alors, ça peut commencer tôt. Enfin, mais il y a toujours. Il y a les adolescents peuvent avoir des conduites excessives vis-à-vis de l'alcool. Enfin, la recherche de sensations fortes. Mm-hmm. Mais certains vont s'abîmer là-dedans ou dans des drogues. Là où d'autres, ça va rester des expériences ponctuelles. Donc, il y a quelque chose chez certains. Vous savez, une addiction, c'est toujours la rencontre entre un produit, une personne, son histoire et un contexte culturel. Donc, le coup, il est tombé dedans. Au fond, il n'y a pas de remise en question. Vous voyez, on n'est pas dans la famille. On peut dire, on n'est pas responsable. Hein. Nous, on ne sait pas, on creuse pas, on veut pas savoir. Il est tombé dedans, tout petit. Ouais. Comprendre la réponse. Oui, il y a d'autres souffrances.
Il devait être malheureux de quelque part, mais en attendant, il avait quand même le mérite de. Ça va un peu à l'opposé de ma maman, c'est-à-dire qu'il c'est vrai qu'il s'occupait pas beaucoup de nous dans le matériel et dans le. Ma mère nous disait beaucoup, il fait rien pour vous, c'est moi qui m'occupe de vous, alors que je bosse 12 heures par jour. Enfin, ça, j'ai entendu toute ma vie. Donc c'est vrai que matériellement parlant, il n'était pas présent. Par contre, on sait qu'il nous aimait profondément. Oui. À l'inverse, où ma mère faisait vraiment s'occupait de nous, évidemment, à la maison, etc., etc. Mais par contre, sur l'affection, psychologiquement parlant, l'appui, le soutien, etc., c'était une catastrophe. Moi, j'étais baptisé le feignant de la famille, par exemple.
Ah bon, c'est votre mère qui disait cela.
Le feignant, ouais. C'est ma mère et ma grand-mère, en fait.
Grand-mère maternelle aussi?
Oui, maternelle, oui.
Vous avez entendu ça toute votre vie?
Adolescent. À partir du divorce, quand on a changé de maison, donc de mes 15 ans à mes peut-être 25, quelque chose comme ça.
C'est terrible, ça. Surtout qu'en plus, souvent quand des adolescents ou des jeunes adultes sont en difficulté ou justement, peut-être dans leurs études ou dans leur apprentissage ou après ont du mal à rentrer dans la vie active, je peux vous dire en tant que psy, la fainéantise n'a rien à voir avec tout ça. Vraiment, c'est qu'il y a derrière une difficulté et on a beau jeu de taxer de feignant et alors non seulement c'est terrible pour le jeune qui reçoit ça, cette étiquette qu'on lui colle et on passe complètement à côté du problème.
Exactement et c'est vrai que moi j'en ai souffert de cette étiquette parce qu'elle m'a été collée injustement parce que en fait j'avais beau essayer d'expliquer ce que j'étais pas feignant, je ne savais juste pas quoi faire comme métier parce que je viens d'une famille où en fait, si on n'a pas de métier, on n'est rien. Sauf que j'ai pas eu comme d'autres une vocation. Je veux être pompier, je veux être médecin, j'ai pas eu ça. D'ailleurs, j'ai toujours pas eu.
Donc, sur le plan professionnel, je crois pas. Mais sur le plan professionnel, vous avez du mal à vous réaliser aujourd'hui encore.
Non, globalement ça va, mais je suis toujours pas dans une vocation.
Oui, mais on n'a pas. Voilà. Vous avez raison, c'est une chance d'avoir une vocation.
Ah oui.
C'est une vraie chance qui n'est pas donnée à tout le monde, hein. Parce que quand on a une véritable vocation, on se donne les moyens, on se bat, on voit des jeunes comme ça qui se lancent et puis beaucoup d'autres comme vous qui savent pas. Et puis c'est tellement compliqué en plus entre 15 ans, 20 ans, 30 ans. Enfin, vous voyez, on peut avoir une envie et puis ça évolue parce que nous-mêmes on évolue, donc bon. Mmh. Mais on s'égare, non, mais j'essaie de recentrer sur votre dilemme, puisque c'est ça. Cette mère dont vous nous parlez, avec laquelle vous avez pris de la distance il y a 3 ans, et qui aujourd'hui vous apprenez qu'elle est malade, vous voudriez revenir vers elle. Alors, je reçois un message d'Evelyne de Lisieux qui dit « Aurélien, votre témoignage m'intéresse beaucoup, car ma mère aussi est atteinte d'une grave maladie, dit Evelyne. Ça fait des années que j'ai coupé les ponts avec elle, mais ça me tracasse, et c'est un vrai dilemme pour moi aussi aujourd'hui, dit Evelyne.
Je comprends, je comprends totalement, surtout que moi je l'ai appris par d'autres personnes et j'ai décidé quand même de lui faire un message parce que après beaucoup de questions, beaucoup de réflexions, je me suis mis dans la position, je me suis dit il faut que je prenne la décision avec laquelle je serai le plus heureux. jusqu'à la fin, en fait, avec laquelle je
oui,
suis plus en
vous avez raison, c'est ça. Qui vous laisse, en tout cas, le moins voilà. de regrets et qui ne
Exactement.
Soit pas... enfin, que ça ne soit pas quelque chose qui vous envahisse, qui vous encombre et dire « j'aurais dû ».
Et parfois, c'est un équilibre entre quelque chose où, malheureusement, on va choisir entre quelque chose qui va faire mal fort, mais pas très longtemps, et quelque chose qui va faire mal moins fort, mais très longtemps. Donc, moi, j'ai pris la décision de continuer à être moi-même, à être attentionné, à être et à pouvoir me regarder dans une glace.
Ce que vous êtes,
et en fait,
oui, au fond.
C'est pas possible de se dire, ma maman, je sais qu'elle est très malade.
Oui, c'est grave, c'est ça. Vous savez aussi, c'est quelque chose de grave et donc voilà. Oui, vous ne pourriez pas, comme vous dites, vous regarder dans une glace. C'est important ce que vous dites. Vous avez raison. Il faut penser aussi à vous dans cette histoire. Et presque, moi, j'ajouterais pour vous, prioritairement à vous. Parce qu'à vous, pour la suite, c'est-à-dire que vous ne portiez pas encore un poids supplémentaire. Il y en a suffisamment. Voyez,
il y en a eu beaucoup.
Donc, il est possible de renouer, comme vous l'avez fait, à travers un petit mot, prendre des nouvelles, sans pour autant être happé à nouveau. Et c'est-à-dire, c'est là où c'est compliqué, c'est en gardant un peu vos distances aussi pour vous protéger.
Mais c'est très compliqué, puisqu'on tombe tout de suite dans des questions. La première chose qu'elle m'a demandé, c'est qui te l'a dit ?
Oui, donc, peu importe à la limite, bon, c'est voilà, pas... Oui, enfin,
peu importe, oui. Ma sœur est dans la même situation que moi. Il faut savoir que ma sœur a aussi coupé les ponts il y a 3 ans.
Ah oui,
parce qu'elle souffrait beaucoup de ça.
Oui.
Il n'y a que mon frère qui est encore en lien avec elle.
D'accord.
Et ma sœur aussi lui a fait un SMS et elle a fini par l'appeler et en lui disant, écoute, je sais que tu es malade. Je voudrais savoir comment tu vas. Je sais qu'on ne s'est pas parlé. Je sais que tu nous en veux, etc., etc. Mais je veux juste qu'on se concentre sur ta santé.
Voilà.
Elle lui a demandé qui te l'a dit. Pareil.
Et elle lâche pas.
Elle lui a dit non, je te le dirai pas.
Oui.
Je suis pas là pour.
Finalement, au lieu de dire, je suis heureuse que vous m'appeliez. Voilà.
Surtout qu'elle attendait que ça. Je sais qu'elle est très malheureuse de pas nous voir.
Bah oui,
moi, elle n'a jamais connu mon deuxième fils.
Oui.
Parce qu'il est né après.
Et oui, le petit, là, qui a 1 an et demi.
Voilà.
Oui.
Mais j'assume totalement.
Oui, oui, oui. Oui, il ne s'agit pas de battre votre coulpe aujourd'hui.
Non. Donc ma sœur, lui, a finalement, n'a pas lâché le morceau. Elle a dit, je ne suis vraiment pas là pour donner des noms.
Oui.
Et donc, elle lui a juste répondu, je ne préfère pas qu'on continue. Et elle a raccroché.
Elle est dure.
Alors qu'elle n'attend que ça.
Mais
oui, elle
est dure.
C'est évident.
C'est
évident. Donc c'est vrai que...
Et avec vous lui avez écrit, pour le moment, vous n'avez pas appelé.
Non, j'ai pas appelé parce que je suis vraiment... Je me dis que si j'appelle, je vais renouer un lien. Et renouer un lien, ça veut dire quoi ? Ça veut dire probablement s'appeler. S'appeler, ça veut dire quoi peut-être après ? Ça veut dire peut-être ça va mieux. Il y a peu de chance, hein. Franchement, il y a peu de chance. Mais
vu la réaction avec votre sœur, là, c'est...
Oui, mais en fait, je me dis, j'ai aucun intérêt... À part pour moi-même, c'est très égoïste ce que je dis, mais je pense que elle m'a fait porter beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie. Et je suis presque en train de me dire que si je reprends contact, c'est presque plus pour moi que pour elle. En fait.
Oui, mais je comprends très bien cela.
C'est cynique, hein, mais...
Non, c'est pas cynique. Non, je n'y vois pas de cynisme. Il y a quelque chose aussi pour... Il faut faire ce qui est le moins difficile pour vous. Pour l'après. C'est-à-dire que c'est aussi... c'est pas du cynisme que de penser à vous et aussi à protéger votre famille. Parce que finalement, ça implique aussi tout cela. Éventuellement, qu'elle rencontre votre petit garçon, enfin, il y a votre épouse, il y a... Donc,
c'est pas possible.
Donc, vous avez vos limites. Oui, mais vous avez vos limites et que vous avez légitimement le droit de mettre. Vous voyez ? C'est-à-dire que vous pouvez, en mettant un petit mot, il y a aussi quelque chose, votre mère finalement, bien que malade, garde encore du mordant, semble-t-il, et sa personnalité, ce qui en soi est plutôt rassurant. Vous voyez, elle n'est pas, parfois quand on est très affaibli, on ne peut plus, on n'est plus en état de réagir, elle a gardé toute sa personnalité et tout ce qu'elle est, au fond. Pour votre sœur, c'est compliqué, peut-être, j'espère qu'elle l'a rappelé. rappellera, votre mère, ou qu'elles ne resteront pas là-dessus, toutes les deux. Mais j'imagine qu'en plus, quand votre sœur vous a rapporté la réaction qu'elle a eue, ça vous montre que vous avez raison de vous protéger.
Oui, j'avoue que ça m'a réconforté, mais c'est voilà. Aussi, ça m'a mis aussi face à un certain deuil, finalement, à faire. Quand mon père est décédé, finalement, j'ai réalisé que j'ai perdu à ce moment-là quasiment toute ma famille. C'est-à-dire que j'ai tiré une croix sur ma mère parce que c'était plus possible d'être en relation avec elle. Mon père était parti, mon frère, c'était plus possible non plus. Donc à part ma sœur, il me restait plus grand monde. Je ne pouvais pas aller contacter mes cousins, mes tantes, qui sont les sœurs de ma maman. Par respect pour elles, je ne le fais pas. Alors qu'on s'entend très bien, mais par respect, je ne le fais pas. Et j'ai réalisé qu'en fait, j'avais perdu beaucoup de monde, quasiment tout le monde dans ma famille, au décès de mon papa. Quoi. C'est ça qui a été aussi très dur à
digérer. Oui, c'est douloureux. Oui, c'est douloureux pour vous. Mais en même temps, je comprends votre démarche, parce que je pense que vous, il faut que vous y trouviez une forme d'apaisement par rapport à vous-même. Parce que votre mère, dans ce que vous me décrivez, il vaut mieux faire le deuil d'une certaine image de la famille ou du parent idéal, vous voyez, du vivant de son parent, que lorsqu'on se retrouve à faire tout ça, devoir faire tout cela quand il n'est plus là. Parce qu'il est toujours possible de se dire des choses. Et puis en plus, votre mère... Quand vous me disiez, dans un couple, normalement, on doit s'entraider, et c'est vrai, vous avez raison. Mais par rapport à l'alcool, vous savez, pour le conjoint, c'est presque une mission impossible. Il y a quelque chose... il faut vraiment que la décision, elle vienne de la personne qui est aux prises avec l'alcool. Parce que sinon, pour le conjoint... Il peut très vite avoir un rôle redoutable, c'est-à-dire celui qui prône l'interdit. Vous voyez, ce que peut faire un conjoint face à celui qui s'alcoolise ou celle qui s'alcoolise, c'est de dire, c'est insupportable pour moi. Je peux pas supporter de te voir comme ça. Ça rejaillit sur notre couple. J'aime pas ce que je t'aime toi, mais pas l'alcool, pas ce que notre couple devient. Et je te demande de faire quelque chose, quitte à ce qu'on aille voir quelqu'un ensemble. Mais souvent, les conjoints, en fait, s'épuisent et eux-mêmes basculent dans la dépression en voulant aider l'autre. Et votre mère, vous me dites effectivement qu'elle n'était pas tendre, pas enveloppante. Alors, c'était peut-être aussi certainement de sa personnalité, mais à sa décharge, en fait, toutes les responsabilités reposaient sur elle aussi. Finalement. Vrai. Trois enfants, le travail, et votre papa qui était très gentil, mais finalement, qui n'était pas en état de s'occuper de... Et c'était votre mère qui tenait ce rôle-là. Elle n'avait pas non plus le beau rôle, entre guillemets. Vous voyez, je me permets juste de vous dire ça.
C'est clair.
Vous voyez, voilà. C'est là où c'est complexe. Et où je pense, je ne sais pas si peut-être le faites-vous déjà, Aurélien, mais depuis que tout est remonté à la surface, depuis, c'est important d'être un peu accompagné psychologiquement.
Ouais, je l'ai été pendant 7-8 mois. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. C'est vrai que. J'ai beaucoup écrit sur les conseils de mon médecin, du coup, qui m'a conseillé d'écrire. Donc, j'ai obtenu beaucoup de réponses aussi dans ces séances. Donc, c'est vrai que là, du coup, j'ai plus de rendez-vous pour l'instant. Mais bon, c'est vrai que quand le besoin s'en fera sentir...
Voilà, vous savez que vous pouvez y avoir recours.
Tout à fait, oui.
Parce que ça peut être... parce que ça aussi, c'est assez bouleversant. C'est-à-dire qu'il faut vous laisser... justement, et comme j'entends chez vous, vous donner cette possibilité aussi de ne pas figer les choses. De ne jamais les... Votre mère elle-même peut finalement... il y a des choses qui peuvent un peu évoluer. On change jamais complètement la personnalité. Mm-hmm. Mais il y a des choses qui peuvent bouger dans ces moments-là de vie aussi. Donc, il faut pouvoir se donner cette liberté, cette possibilité de revisiter son histoire comme vous le faites. Et ça peut être bien d'avoir ponctuellement ce soutien-là d'un professionnel qui est extérieur, où lui, il n'y a pas d'enjeu de son côté. Voyez ?
Tout à fait, et puis on gagne un temps fou. Hein.
Oui, mais bien sûr.
À ressasser tout ça tout seul, ou même, on en parle beaucoup avec ma femme,
oui.
Mais ben, quand même, enfin,
oui.
Quelqu'un qui connaît les tenants, les aboutissants, comment détricoter tout ça, justement.
Oui. Oui, je comprends que votre femme soit d'un grand soutien pour vous.
Bien sûr.
Mais pour aussi que peut-être ça ne pèse pas trop sur le couple que vous formez. Et je vois que malgré cette histoire, ce couple quand même, cette image de couple pas des plus épanouissantes, ce papa aussi très fragile, ben vous avez réussi à être en couple, à construire un couple et à devenir un papa et un père très responsable, parce que très protecteur.
Oui, c'est ma plus grande fierté.
Ben je comprends,
ouais.
vous avez de quoi
de les être protéger.
Fier. Vous avez de quoi être fier, bien sûr. C'est vrai.
Merci.
Ce que n'a pas pu faire votre père, malheureusement, pour vous. Voyez,
parce
qu'il
mère,
était trop mal.
Ni
votre mère. Oui, c'est vrai.
Oui.
Oui, mais parce que là, je me parlais à vous en tant qu'homme et donc
tout
père aussi. Voyez,
oui, c'est vrai.
Et vous avez pu réussir cela. Ça montre que, heureusement, on n'est pas condamné à répéter indéfiniment l'histoire de ses parents ou de sa famille. Et en cela, c'est un très beau témoignage. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui dit c'est une magnifique réaction d'Aurélien que de vouloir revenir, enfin, renouer vers sa mère, peut-être remettre les compteurs à zéro, si j'ajouterais, ça c'est parfois plus compliqué, mais en tout cas, s'accompagner, se remémorer les souvenirs heureux et non ressasser les griefs, et oui, c'est tout un travail qui est assez bouleversant, mais qui est au prix parfois, ce qui compte, c'est que vous vous sentiez apaisé, vous, au final. Mmh. C'est ça qui compte, Aurélien.
Ouais.
Uniquement ça, j'ai envie
d'accord.
de vous dire. Merci beaucoup, en tout cas pour votre témoignage qui, vous voyez, aide aussi d'autres auditeurs confrontés à cette situation.
Mieux.
Prenez soin de vous hein, et, de votre,
beaucoup,
et de votre
merci.
Famille.
Merci pour votre aide.
Je vous embrasse, au revoir Aurélien.
Parlons-nous, Caroline Dublanc sur RTL.